Bonjour, ici Marc Levasseur. Je vous souhaite la bienvenue à Django et compagnie, l'émission consacrée au jazz manouche et aux musiques apparentées. Jazz, musette, musique des Balkans, tzigane, flamenco, klezmer, musique du Moyen-Orient et musique du monde. Des variations musicales teintées d'influences locales telles qu'on peut les entendre à Montréal, au Québec et ailleurs dans le monde. Je vous rappelle que nous sommes diffusés deux fois la semaine, les mercredis et vendredis en soirée, sur les ondes de CIBL 101,5. Cette semaine, dernier épisode de la série de chroniques que nous a proposé Christine Tassan. Bonjour Christine.
Bonjour.
Alors, sur la vie de Django Reinhardt, et malheureusement, l'épisode qu'on vous propose cette semaine, c'est la fin prématurée, si on peut dire, de la vie de ce grand guitariste, ce grand compositeur qui était Django Reinhardt. Les chroniques vont être rendues disponibles sur différentes plateformes web. Notamment, on peut y avoir accès à travers une page qui s'appelle Montréal et Jazz Manouche, EST et non pas E. Donc, Montréal et Jazz Manouche sur Facebook et sur Instagram. Donc, le retour de Django Reinhardt, on est un petit peu plus loin dans les années 40. Et là, Django, il s'intéresse vraiment au bebop. Il fait une incursion dans l'univers bebop. Puis, on va écouter d'ailleurs une pièce qui représente assez bien cette transition qui s'appelle « Flèche d'or ». On est vraiment dans le style. Au début, moi, je croyais écouter une pièce de Charlie Parker, mais pas du tout. Ça s'appelle Flèche d'or. C'est Django Reinhardt qui s'est mis au bebop. Et c'est ce dont va nous parler Christine Tassan de suite.
Sacré Django. Moi, j'écoute ça, là, je...
Ça donne des frissons.
Frissons. De voir comment son évolution, vraiment, entre le swing et puis un bebop qui est quand même... qui reste sa manière à lui. C'est pas tout à fait le bebop de Charlie Parker, justement.
Oui, c'est signé. Hein. Ouais.
Ah oui, c'est ça. Il évolue, il entend une nouvelle musique qui arrive donc des États-Unis, qui est la suite un peu logique du swing, c'est-à-dire le swing était à l'origine une musique de danse. Avec des grands orchestres. Donc le rythme était quand même assez marqué, tchac-tchac-tchac-tchac-tchac, cette espèce de rythme qu'on reproduit à la pompe manouche.
Ouais.
Et avec des mélodies très dansantes et chantantes. Avec le bebop, c'est les jeunes musiciens de jazz qui vont avoir des contours rythmiques beaucoup plus... La batterie va commencer à phraser complètement différemment, à mettre beaucoup plus de punch, beaucoup plus de break, enfin d'accent, on va dire, par rapport à la rythmique swing qui est très, très droite. Et puis au niveau des mélodies, elles vont être beaucoup plus complexes. Ça va devenir quelque chose d'un peu plus cérébral, en fait, beaucoup moins dansant. D'ailleurs,
ouais, d'ailleurs,
on danse pas sur moins sur le bebop que sur le swing.
Ah, à moins d'être très rapide, ouais. Avoir connaître ses pas comme il faut.
Alors donc, en fait, Django a commencé à découvrir cette musique-là juste à la Libération, donc en 1945. Et il a entendu cette musique qui est jouée par des jeunes musiciens de jazz à Paris. Après ça, il s'en va aux États-Unis. Bon, on en a parlé au dernier épisode. Ça s'est plus ou moins bien passé, mais quand même, il a fait un grand succès là-bas quand même. Et aussi, il a dû entendre probablement aussi cette musique-là. D'ailleurs, il a voulu rencontrer les musiciens de bebop, Charlie Parker, Thelonious Monk et compagnie.
Et Dizzy, ouais.
Et Dizzy Gillespie. Il n'a pas réussi à les rencontrer parce qu'ils étaient en tournée. Mais il revient quand même en France avec imprégné de cette musique-là. Et il va donc petit à petit l'intégrer, assez rapidement, il va l'intégrer à ses compositions. Donc on peut retrouver ces accents bebop-là, cette nouveauté dans des morceaux comme R26, Flèche d'or, là, qu'on a entendu, Micro aussi, ou Babic, qui est un morceau dédié à son jeune fils, Babic. Et on entend les trouvailles du bebop, on entend ces mélodies qui sont plus difficiles au niveau harmonique. Il y a toutes sortes de dissonances qui vont commencer à être intégrées dans cette musique-là et qu'on entend dans son jeu.
Oui, de toute façon, Flèche d'or, si on écoute, tape pas attentivement une mesure ou deux, on se croirait presque ornithologie, là, je veux dire, on n'est pas loin, là.
Oui, tout à fait, on entend ça. Et puis alors, en France, c'est l'époque aussi de Saint-Germain-des-Prés, donc à Paris, ça c'est le quartier Saint-Germain-des-Prés, et c'est là que se tiennent les jeunes musiciens qui jouent du bebop, et c'est aussi là qu'il y a une espèce de révolution culturelle. Pas juste en musique, c'est aussi au niveau philosophie. C'est là que se tiennent Jean-Paul Sartre
et
Simone de Beauvoir. Et Django, alors là, il y a quand même une anecdote intéressante, c'est que Django va habiter pendant un petit moment dans un hôtel qui s'appelle le Crystal Hotel.
Ah oui.
À Saint-Germain-des-Prés.
Quelle belle anecdote.
Et qui habite là aussi? Eh bien, c'est un grand... Enfin, à l'époque, il n'est pas encore connu, mais c'est Félix Leclerc qui va habiter là temporairement aussi pour sa première tournée en France. Il habite au Crystal Hotel. Et ces deux-là vont se rencontrer. À un moment donné, Félix ne peut pas dormir parce qu'il y a quelqu'un qui joue de la guitare pendant la nuit. Et le matin, il veut rencontrer cette personne-là. Et c'est Django Reinhardt qui réside au Crystal Hotel aussi.
Deux petits trucs là-dessus. Le premier, c'est que Christine Tassin a consacré un album qui s'appelle « Entre Félix et Django » et qui et justement raconte un peu et met en musique une partie des pièces de Django et une partie des pièces de Félix. Et Félix Leclerc, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'il est allé en France dans les années 50, il y a Georges Brassens qui a dit de lui « On ne savait pas qu'on pouvait faire de la musique, on ne savait pas qu'on pouvait être chansonnier juste avec une guitare avant d'entendre Félix Leclerc. » Alors, notre ambassadeur québécois, il a bien fait son travail à Paris, semble-t-il.
Oui, et d'ailleurs, Brassens s'est inspiré de Félix justement pour faire des chansons comme ça, juste accompagnées à la guitare.
Ouais, oui.
Mais Brassens disait aussi qu'il était complètement inspiré par Django Reinhardt.
Oui, puis il y a une rythmique. Hein?
La rythmique de Brassens est quand même calquée sur celle de Django d'une certaine manière.
Ah, mais c'est vraiment la rencontre, là, la rencontre culturelle, musicale, tout ce qu'on veut. Là.
Oui.
Ah bon. Et là, ça nous amène où? Ça nous amène à Saint-Germain-des-Prés, donc le quartier des Intellos, où mai 68 a commencé d'ailleurs à un moment donné. Mais voilà, là, Django est rendu là.
Django est rendu là. Django joue avec donc, les jeunes musiciens. Même au début, il est un petit peu bousculé par cette musique-là, parce que les jeunes boppers jouent très vite, très rapidement sur l'instrument. Puis à un moment donné, j'ai lu une anecdote comme quoi Django, un soir, il s'est comme fâché. Et lui-même a commencé à jouer très rapidement.
On va vous montrer les jeunes.
Oui, je vais vous montrer les jeunes. Puis en plus, enfin, il avait quand même une virtuosité exceptionnelle. Et il dit, à partir de ce moment-là, ils m'ont respecté. Et là, bon, c'est devenu des amis avec qui il a joué. Alors, il a même écrit un morceau en hommage donc, à ces folles nuits de Saint-Germain. Saint-Germain. Ça s'appelle « Nuit de Saint-Germain-des-Prés ».
Que l'on écoute à l'instant. Saint-Germain-des-Prés, donc le mythique quartier où a fleuri, a grandi mai 68. Ça, c'est mythique pour les gens de mon âge. Mais il y avait autre chose. Il y avait Boris Vian. Il y avait plein de choses, n'est-ce pas? Saint-Germain-des-Prés, c'est mythique.
Oui, oui, oui. Ben là, on est un petit peu avant mai 68 quand même. On est plutôt dans les années 50, autour de 51, 52, puisque Django est mort en 53.
Et il y avait une chanson qui s'appelait « À Saint-Germain-des-Prés » qui était chantée par Mme Gréco, qui était comme par hasard l'amoureuse de Miles Davis.
Oui, 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 oui.
Alors, voilà. Donc, ça nous amène où, tout cela?
D'abord, on peut entendre dans cette musique-là de de Django, que là, il a intégré vraiment à son jeu la guitare électrique, l'amplification aussi, parce qu'au début, quand il était aux États-Unis, il a eu un peu de mal avec les amplis. Avec lui, il avait toujours joué sur des guitares acoustiques non amplifiées.
Oui,
ça... Donc là, il se retrouve pour pouvoir rivaliser avec les cuivres, avec un orchestre, comme on vient d'entendre, il fallait qu'il soit amplifié. Donc là, il a vraiment intégré ce son-là. Je ne sais pas s'il jouait vraiment sur une guitare électrique ou juste une guitare acoustique amplifiée, mais en tout cas, c'est réglé. Il adore ce son-là, il met l'ampli à fond. On entend d'ailleurs qu'il y a de la saturation sur son son de guitare.
Ouais, ouais.
Il joue comme un enfant avec cette nouvelle... guitare électrique.
Ouais, puis les petits micros qui ont été développés, là, justement.
Les steamers.
Les steamers, oui. Qui ont un son très électrique, justement.
Oui, oui, oui. C'est ça, c'est des micros de guitare électrique.
Sur une guitare. Bon, voilà. Alors, Fontainebleau, c'est pas très loin, quand même.
Alors, ben, c'est aussi, donc, en 1951, donc dans ces années-là, que Django éprouve le besoin de... Il a toujours voyagé, il a vécu... un peu partout. Il avait gardé une vie très nomade, quand même, tout au long de sa vie. Et là, dans 1951, il achète, pour la première fois de sa vie, il achète une maison dans un petit village qui s'appelle Samois-sur-Seine, qui est situé à 40 km au sud de Paris, juste à côté de Fontainebleau.
Ouais, on se sédentarise.
Voilà, il se sédentarise. Et puis, c'est charmant comme village. Et là, il va développer d'autres... En fait, il peut s'adonner à d'autres passions. Il adore... il commence à faire de la peinture. Il adore faire de la pêche aussi, la pêche à la mouche.
Oui, oui, oui.
Il y a un morceau qui s'appelle comme ça,
ouais.
Pêche à la mouche. Il adore jouer au billard. Il est très, très habile, d'ailleurs, dans tous les jeux d'adresse. Alors, il va au petit café du village et il joue... avec les habitués du café au billard. Donc, c'est une espèce de vie beaucoup plus tranquille que tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent.
Et sa musique, il compose encore à cette époque-là, au moins?
Oui, je pense qu'il continue à composer. Il continue à jouer, en tout cas, ça, c'est sûr, parce qu'il y a des enregistrements qui datent de cette époque-là. D'ailleurs, il a changé aussi sa manière de vivre. Dans le dernier épisode, on disait qu'il avait toujours vécu à l'heure gitane, c'est-à-dire en arrivant en retard. Là, maintenant, il est beaucoup plus assidu. Il arrive de manière beaucoup plus ponctuelle aux enregistrements,
finalement,
aux concerts.
Finalement, il est prêt pour aller jouer aux États-Unis.
Ben oui, voilà. Là, il aurait été plus prêt. Donc, il se range un petit peu d'une certaine manière. Puis peut-être qu'il arrive aussi à un âge où, il a besoin d'être plus tranquille.
La jeune quarantaine.
Voilà. Alors, c'est dans ce village-là aussi, d'ailleurs, à Samois-sur-Seine, que tous les ans,
ouais,
il y a ce fameux festival Django Reinhardt.
Alors, on vous promet rien, mais il est fort possible que j'y aille personnellement l'été prochain et je vous promets, si la chose est possible, de vous ramener du son.
Ah ben oui! Moi, j'y suis allée en 2014. J'ai été jouer là avec mon groupe et c'est très beau. Hein. C'est un tout petit village. On voit la maison de Django. Il y a une plaque commémorative sur le mur extérieur. Et puis, le festival, il n'a plus lieu là, malheureusement, mais à l'époque, il avait lieu dans un... Samois-sur-Seine, son nom l'indique, c'est sur le bord de la Seine.
Ouais.
Il y a une île et le festival avait lieu donc en plein milieu de la Seine sur cette île. Et malheureusement, ça n'a plus lieu là parce que depuis quelques années, il y a la montée des eaux régulièrement l'île est inondée. Donc maintenant, le festival a lieu à Fontainebleau.
Et tout le monde sait que les guitares, ça prend mal l'eau, hein, finalement.
Oui, mais il n'y a pas juste les guitares.
Christine Tassin, est-ce que vous êtes allée mettre un plectre, un médiator à côté du tombeau de Django?
Non, mais je me suis rendue sur sa tombe, effectivement. Il est enterré là avec son premier fils, son deuxième aussi, avec sa mère. Donc c'est quand même quelque chose d'assez... C'est émouvant de se retrouver là, dans ce village-là.
L'anecdote, c'est que les guitaristes vont sur le tombeau de Django, ils déposent un médiator, le truc qu'on utilise pour jouer de la guitare, ils le plantent dans la terre ou ils le mettent sur la pierre tombale, oui, c'est ça.
Un petit peu comme les gens déposent des souliers sur la tombe de Félix.
Ben voilà, exactement. Mes souliers ont très peu voyagé.
Alors, c'est en 1953 aussi que Django va faire son dernier enregistrement. Donc là, c'est un producteur et un impresario. On parlait donc de qui retourne aux États-Unis. Ben, effectivement, il y a quelqu'un qui souhaite le voir revenir aux États-Unis. C'est un gars qui s'appelle Norman Granz, qui est impresario et producteur de jazz américain, qui voudrait que Django participe à une série musicale qu'il a à Los Angeles qui s'appelle le Jazz at the Philharmonic. Et Eddie Barclay, qui est un impresario français, décide de faire enregistrer à Django 8 morceaux qui pourraient servir de carte de visite pour aller jouer aux États-Unis. Alors,
d'où l'enregistrement très particulier. Parce que là, il faut que je vous dise, j'avais trouvé un enregistrement et Christine m'a dit que ce n'est pas le bon. Alors, Christine voulait absolument nous faire entendre l'enregistrement qui a été fait en 1953. Donc, c'est l'année du décès de Django Reinhardt. Et comme il est décédé en mai, je crois, ou en avril, enfin...
En juin 1953.
Bref, dans la première partie de l'année 1953, donc c'est très, très près de son décès, en fait. Alors, puis la pièce, on la connaissait, on y a déjà référé, ça s'appelle « Nuages ». Et c'est donc la version de 1953, trouvée précisément sur les instructions.
Oui, bien, c'est important parce que c'est le dernier enregistrement.
Oui.
Et puis, c'est magnifique. C'est comme un espèce de testament. C'est joué beaucoup moins rapidement que les autres manières de jouer
plus
de Django.
Senti.
Il a évolué dans son jeu et là, il y a quelque chose de
magique.
De magique et puis d'éternel dans sa manière de jouer. C'est pour ça que je tenais vraiment à ce qu'on entende.
C'est son testament, finalement.
Ben, il ne savait pas à l'époque, bien sûr.
On pense qu'il ne savait pas, mais on dit qu'on sent tous un peu la fin arriver à un moment donné, d'une façon ou de l'autre.
Peut-être.
Alors... Ben écoutez, de toute façon, c'est un hommage, on l'écoute de ce pas.
Thank you.
elle avait raison. C'est vraiment, vraiment très senti comme jeu. Et en fait, ça précède le décès, le malheureux décès de Django Reinhardt à l'âge de 43 ans. Christine Tassin avait des petits trucs à nous raconter là-dessus.
Ouais, moi, j'en ai des frissons quand j'écoute ça, là. C'est magnifique. Alors, en fait, comment ça s'est passé? Ben, donc, Django devait partir de nouveau aux États-Unis. Décidément, il n'aura pas pu y aller. Et ça faisait déjà quelques mois qu'il se plaignait à sa femme qu'il avait des maux de tête. Et puis, il disait aussi qu'il commençait à avoir du mal à fermer la main. Donc, sa femme lui avait dit, ben, va voir le médecin. Puis, il ne voulait pas parce qu'il avait horreur des médecins et des piqûres. Donc, à un moment donné, ça s'est passé le 15 mai 1900... Donc, ce n'est pas en juin, c'est en mai, effectivement. Le 15 mai 1953, il sortait d'une partie de pêche à Samoa. Et puis, il se rend au café. Il bavarde avec les habitués, comme d'habitude. Et puis là, il a une espèce de congestion. Alors, on le transporte chez lui. Mais vu que c'était un samedi, on a du mal à trouver un médecin. Donc, quand le médecin arrive, c'est trop tard. Alors, pour l'anecdote, il semblerait que Django lui ait dit de manière un peu... avec un certain humour quand même, il lui dit « Ah, c'est maintenant que vous arrivez ». Et puis voilà.
Ce
furent ses derniers mots. Il a été transporté à Fontainebleau à l'hôpital et puis il est décédé, donc je pense le lendemain ou dans la nuit, d'une hémorragie cérébrale. Alors ça a été la fin de ce grand guitariste. Et selon les rites de Tzigane, les rites des Manouches, sa femme a brûlé tous ses effets personnels pour effacer toute trace du défunt. C'est comme ça que ça se passe dans les communautés.
Mais heureusement, il nous est resté la musique, dont la pièce qu'on vient d'entendre et celle qu'on va entendre. Mais entre-temps, Christine Tassin, c'est déjà la fin de votre chronique, malheureusement. Mais on vous attend.
Ça passe vite.
Ouais, mais on vous attend avec d'autres chroniques. On compte sur vous.
Ah, ben, il y a tellement de choses qu'on pourrait raconter. Sa vie est un poème.
Que l'on va raconter.
Il y a tellement de sujets qu'on peut aborder qu'il y a matière à plein d'autres chroniques.
Merci beaucoup, Christine Tassin. C'est malheureusement tout. Alors, on se laisse sur Manoir de mes rêves, dernière pièce de Django Reinhardt. C'est malheureusement tout pour cette semaine. Chroniqueuse Christine Tassin, on vient d'apprendre qu'elle va peut-être revenir, alors on est très content. À la régie, Lucas Egensperger et Maurice Bolduc. Thème d'ouverture, animation et réalisation, Marc Levasseur. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode, en fait, de Django et compagnie. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao! Thank you.